7 avril 2020, peut-on être libre en confinement? Nous avons souvent entendu l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et pourtant, aujourd'hui, rien ne sonne moins faux que cette définition exclusive du bonheur et de la liberté. La vie privée n'a sans doute jamais paru aussi privative que dans cette période de confinement. Période de repli, certes intéressant, mais également frustrant. On ne peut que constater la frustration ambiante relative à cette restriction de la circulation que consume notre propension à regarder l'autre comme une menace potentielle à notre survie. Cette menace potentielle est d'autant plus pernicieuse qu'elle est involontaire. L'autre est mon ennemi caché, le danger étant partout et nulle part en même temps. Inidentifiable, littéralement pandémique, la dangerosité de la vie communautaire est tellement accentuée que nous en avons oublié la joie du vivre ensemble. Cette situation extraordinaire nous met en demeure de penser le site de la liberté individuelle, à l'aune d'une société qui conçoit généralement son bonheur comme essentiellement privé. L'existence privée n'a sans doute jamais autant sonné comme privative alors même que l'individualisme consumériste a envahi complètement nos sociétés. Mais le confinement n'est pas uniquement retraite dans l'anonymat de la vie privée. Il est aussi et en même temps privation du divertissement que procure la consommation de biens inessentiels. Dit simplement, les magasins sont fermés et avec eux la possibilité compulsive et défoulante de se dépenser, de s'offrir cet ensemble de gadgets si inutiles et en même temps si essentiels à l'aporie privative. Le confinement serait ainsi le pire scénario possible. Il est privation des autres et privation de l'expédient qui rendait cette atomisation de la société acceptable, voire jouissive. On entend pourtant, ça et là, l'intérêt qui consiste à prendre du temps pour soi-même, à se recueillir religieusement dans cette retraite forcée, mais qu'il faudrait psychologiquement percevoir comme voulue. Retraite réflexive de l'animal compulsif moderne à qui on a préalablement retiré le goût même de soi-même, le plaisir d'être seul avec lui-même. Se reconnaît-il encore cet étrange animal? N'a-t-il pas oublié qui il est, ce qu'il est, profondément? N'a-t-il pas oublié ce qu'est ce rapport intime à soi-même, ce rapport méditant? Peut-on honnêtement s'étonner de cette pénurie intellectuelle qui traverse l'animal laborans, dont toute la vie était conditionnée par l'efficacité laborieuse finalisée dans l'acte suprême de la consommation? Ce palliatif à la privatisation insulaire de l'individu une fois retiré, peut-on s'étonner du désarroi suprême au sein duquel se trouve l'humanité une fois que lui a été retirée la seule chose qui donnait encore sens à son existence? Le confinement est un terme qu'on avait sans doute oublié. Il fait bon ménage avec un autre terme, la quarantaine, à la différence près que la quarantaine a le mérite d'être limitée dans le temps, alors que le confinement semble pouvoir être infini. C'est sans doute la possibilité d'une indéfinie privation qui provoque l'anxiété à l'échelle planétaire. À cette anxiété indéfinie se couple bien évidemment l'anxiété plus sensée du problème économique, de la réduction future du pouvoir d'achat et subséquemment du pouvoir suprême de consommation. Nous savons tous intimement que cette privation ne ressemble en rien à un sacrifice fruitif. C'est bien plus un suicide collectif du point de vue économique qui entame complètement notre rapport aux choses et à l'argent. Même dans les pays les plus socialistes, l'après ne semble pas porter en lui les promesses d'un meilleur. La libération expectée, nous le savons, risque d'être amère aussi longtemps que nous penserons la libération comme un retour nostalgique à l'avant. À tel point que nous pouvons nous demander dans quelle mesure nous souhaitons la libération si est acceptée l'idée selon laquelle la libération ne réalisera qu'une privation plus grande encore, plus pernicieuse bien que moins physique. Il est possible que les moyens financiers de déplacement soient littéralement oblitérés, que la possibilité de voyager par exemple ne soit le lot que d'une élite dont l'accumulation excessive permettrait de revenir à la normale. Pour la plupart d'entre nous, l'après n'est que l'accentuation de l'avant sous d'autres formes, des formes misérables aussi longtemps que nous penserons en direction du retour à la normale. Quelle est cette normale que nous évoquons si nostalgiquement? Ne nous leurrons-nous pas dans cette perception idyllique du gaspillage incessant de nos ressources, de notre temps et de notre argent? N'est-il pas temps de reconsidérer la logique de l'intérêt et avec elle notre intérêt véritable ?